Radio Capi, grand témoin.
Bonjour, je suis Alain Irungu-Mushinj. Dans Grand Témoin aujourd'hui, je reçois le professeur émérite Witt Mulongo, homme des lettres et politicien. Il s'exprime sur la commémoration du 20e anniversaire de la disparition de l'ancien Premier ministre Jean de Dieu Ngunz à Karlibond, diplomate et homme politique qui a marqué l'histoire de la République démocratique du Congo. Ce dernier est décédé le 27 juillet 2003 à Kinshasa. Professeur Witt Mulongo, bonjour, soyez le bienvenu.
Bonjour cher ami, merci bien.
Comment allez-vous?
Disons moins mal.
Jean de Dieu Ngunz à Karlibond, qui deviendra Ngunz à Karlibond au moment de la politique dite de l'authenticité sous le régime du maréchal Mobutu, est né le 4 août 1938 à Musumba, dans l'actuelle province du Lualaba. Il appartenait à la tribu Lunda. Il fut marié à Wivin Landou Kavidi, fille d'Edmond Zeza Landou, fondateur de l'Abaku, le parti de Joseph Kasavubu, et ancienne ministre de la coopération internationale du maréchal Mobutu. Professeur Witt Mulongo, 20 ans après, quelle est l'opportunité de commémorer la disparition de Jean de Dieu Ngunz à Karlibond?
Mais écoutez, je profite d'ailleurs avant de vous répondre, je profite de l'occasion pour dire énormément merci à la famille de Karl. Nous, nous l'appelions Karl. Qui sort cette opportunité? Si vous posez cette question, c'est parce que justement, il y a eu un grand hiatus. Moi, je dirais que c'est dans le sens contraire qu'il faut se poser la question. Pas quelle est l'opportunité, mais plutôt qu'est-ce qui a fait qu'il y ait trop de blanc, trop de silence autour de ces grands personnages.
Alors c'était quoi la raison, selon vous?
Je pense que c'est la grande distraction. Je ne vois pas très bien un calcul manichéen, ou je ne vois pas ça, mais je vois une grande distraction qui serait, me semble-t-il, due à la manière dont le pays a redécollé à partir de la grande crise liée autour de la conférence nationale souveraine. Il y a eu des bons d'un côté, des mauvais de l'autre, des opportunistes de l'autre, des gens plus ou moins acceptables de l'autre. Et je crois que ces troubles post-conférence nationale souveraine a distrait beaucoup des gens sur leur personnage. Il n'est pas le seul, hein, et il faut féliciter d'ailleurs la famille Kibasa Maliba aussi. Il n'y a pas très longtemps que la famille Kibasa Maliba elle-même s'est réveillée, hein, pour dire notre père a aussi donné pour la République. Donc je crois que c'est beaucoup plus dû à la distraction liée à la crise post-conférence nationale.
Jean de Dieu Ngunz à Karlibond, titulaire d'une maîtrise en relations internationales de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Après ses études supérieures, il retourne en RDC pour travailler quelques années dans la diplomatie. En 1972, il est rappelé au pays pour devenir ministre des Affaires étrangères de 72 à 74 et de nouveau entre 76 et 77. Parfait polyglotte, il parlait couramment 6 langues africaines ainsi que l'anglais, le français, le néerlandais et l'allemand. Parlez-nous un peu de la personnalité de Jean Ngunz à Karlibond. Là, on voit que c'était un grand intellectuel.
Moi, je dis que c'était un intellectuel authentique, Karl. C'était un intellectuel authentique, c'est-à-dire quelqu'un qui n'empruntait pas trop à de querelles de boutiquiers, qui transpirait la plénitude de son être, et scientifique, et politique. Quand vous voyez Ngunz intervenir dans un contexte ou dans l'autre, c'est Ngunz plein. Vous ne sentez pas qu'il est dans la peu près, qu'il est dans la recherche du matuvisme. Il était lui, tout simplement, et son personnage était suffisamment éloquent. Je l'ai connu moins avant les années 80, parce que nous étions encore étudiants. À partir des années 80, on va le connaître un peu par les échos, comment je peux dire, par les affres de l'exil et la diaspora. Nous étions en France, et ils évoluaient beaucoup plus en Belgique, avec le vieux Kiouta aussi.
Mongoldiaka.
Ce que je connaîtrais de Karl à ce moment-là, c'était ses efforts transfrontaliers entre étudiants et entre militants anti-CCCO à ce moment-là.
De son fils, dans les témoignages que j'ai suivis sur plusieurs médias, son fils disait que lui-même, Jean de Dieu Ngunz à Karlibond, en parlant à sa famille, disait à ses enfants qu'il était diplomate de carrière et politicien par accident.
C'est comme la plupart des grands politiciens, en fait. Hein, ce qui est... Bon, je vais un peu provoquer, mais ce qui est différent de certains d'entre nous aujourd'hui, hein, qui font de la politique une profession. Mais c'était pas ça, Karl. Il était diplomate, et je crois que là vous avez résumé, mais si on retrouve les différents épisodes de ce qu'il a fait à gauche, à droite, aux Nations Unies, où il représentait notre pays et tout le reste, il n'a pas le temps de dire « je veux faire la politique ». Et il entre en politique par accident parce qu'en fait, il vient travailler pour son pays. Il vient donner tout ce qu'il a accumulé comme savoir, comme expérience, et on le nomme. Il faut reconnaître que Mobutu, c'est un personnage extraordinaire qui repérait facilement les grandes intelligences. Il n'avait pas beaucoup d'à peu près autour de lui, pas beaucoup de folkloristes autour de lui. Et on le repérait même aux études. Vous avez les gens comme des Kengo Dondo qu'on va repérer à partir de la Belgique. Là, ils vont participer au mouvement de la JMPR Bruxelles. Mais toutes les remontées, lui, il suivait. C'est de là que Mobutu va le piquer. C'est de là qu'il va piquer Mampuya. Mais c'est de là aussi qu'on va piquer Karl. Parce que, comment je peux dire, l'écho de son être va arriver jusqu'ici. Il dit, attends, avec toute cette grande carrière-là, il va me servir ici. Alors, quand il entre, après il y aura tout ce que vous savez, des accidents politiques. Il va s'énerver, il va repartir. C'est le début.
On va en parler tout à l'heure, professeur. En parlant du diplomate, j'ai par exemple vu certaines de ses photos avec sa famille et avec le président Reagan. Certaines de ses photos avec la reine Elizabeth, Margaret Thatcher. Oui, on est diplomate, mais c'est pas tous les diplomates qui arrivent à ce niveau-là.
Bah, je crois, Alain, vous l'avez résumé. C'est pas monsieur tout le monde qui atterrit dans ces grands cimes de diplomatie avec leur famille. Et aujourd'hui, quand j'ai vu Jacques, je crois que c'est Jacques qui a montré ces photos, mais c'est un héritage indicible pour les enfants, en même temps que cet héritage les condamne. Est-ce qu'un enfant peut se permettre d'être bourriqué dans cette famille? Impossible. Quand on regarde tout ce que le père a fait, jusqu'où il les a amenés alors qu'ils étaient encore tout petits. Donc, il y a combien... Durant ma vie, je n'ai pas vu beaucoup de ministres, parce qu'ils n'étaient pas présidents, de ministres arriver à ce niveau-là avec les enfants. Et encore que beaucoup d'entre nous, si intellectuels que nous avions réussi à devenir, déjà se promener avec sa femme à des niveaux très élevés comme ça, c'est comme une entorse à la coutume et à la culture. Mais Karl cassait déjà cette entorse.
Dans les années 70, la stature politique de Ngozi est si importante qu'au Zaïre et au sein de la communauté internationale, il était considéré comme un possible successeur du maréchal Mobutu, ce qui peut expliquer les ennuis que ce brillant diplomate aura à partir de l'année 77. En effet, Mobutu, le considérant sans doute comme un rival politique potentiel, le fait tomber en disgrâce, accusé de haute trahison. Il est arrêté, torturé et condamné à mort après un procès public. Pourquoi, selon vous, professeur Witmulongo, Jean Ngozi Kalibonde n'est pas cité parmi les pères de l'indépendance de la RDC?
Bon, je crois qu'il ne fait pas réellement partie des pères de l'indépendance, mais plutôt de pères post-indépendance. Hein, donc on ne peut pas confondre les deux périodes. La première période est suffisamment ancrée dans le combat pour l'indépendance, etc. L'indépendance, j'allais dire, territoriale, si on peut dire ça. Alors que Karl va se battre dans le moment post-indépendance pour l'indépendance politique. Et c'est ce qui va l'amener, vous y avez fait allusion, à un conflit latent, subtil, avec Mobutu Sese Seko. Parce que, et ça c'est très intéressant, Alain, vous avez là l'un des signes qui montre quand un président a des visées autres que des visées démocratiques, que des visées de respect de la Constitution et tout le reste. Hein, d'habitude, on invente toujours, non, pour telle raison, on va retoucher la Constitution et tout le reste. Mais là, le fait de prendre un collaborateur qui monte très fort, en assurant d'ailleurs la respectabilité de l'image de son président et de sa République, mais le président le prend en grippe. Ça veut dire quoi? Je crois que les psychosociologues, les psychologues tout court devraient s'y intéresser. On a là des signes psychologiques qui montrent que les guerres là visent à rester le plus longtemps possible. Sinon, ils ne se fâcheraient pas contre un potentiel dauphin.
Quelques années après, Jean de Dieu Ngozi Kalibonde est, au bout de 2 ans, libéré après avoir bénéficié d'une grâce présidentielle. En 1979, il reprend la tête de la diplomatie zaïroise en tant que ministre des Affaires étrangères et est nommé premier commissaire d'État, l'équivalent du premier ministre à cette époque en 1980. Ngozi Kalibonde était-il naïf, professeur Mulongo, au point de retomber dans les bras de celui qui avait été son bourreau quelques années avant?
Et à boire et à manger, je dirais oui et non. Naïf comme tous les grands scientifiques, les grands intellectuels, hein, qui pensent toujours que, en fait, tout se joue sur l'intelligibilité, sur l'intelligence simple.
Sur la logique.
Sur la logique, vous l'avez résumé. Un intellectuel plein, il parle avec la logique, telle qu'il a apprise à l'école, telle qu'il a apprise sur le terrain, il croit que c'est censé aller comme ça. Mais le politicien de carrière, c'est un calculateur. Et quelqu'un qui a des intentions de dictateur, c'est encore plus furé que Renard.
Il n'a pas d'état d'âme.
Non, il a un état qui n'est pas un état d'âme. C'est plutôt un état stratégique, voyez-vous.
Pour ses intérêts.
Mais bon. Voilà.
Alors, en 1981, lors d'une visite officielle à Bruxelles, Ngouz prend le chemin de l'exil, où il a tenté d'unir l'opposition zaïroise en exil et profite pour témoigner contre Mobutu devant le Congrès américain, décrivant en détail graphique le vol de centaines de millions de dollars par Mobutu du trésor public zaïrois et son dépôt ultérieur dans des banques étrangères. Ngouz publie son célèbre ouvrage « Mobutu ou l'incarnation du mal zaïrois », très critique à l'égard du régime. Professeur, de manière succincte, brève, pour ceux qui n'ont pas lu ce livre, qu'est-ce qu'il raconte ?
Mais il résume simplement ce qu'un intellectuel, comme je disais tout à l'heure, ce qu'un intellectuel finit par découvrir lorsque sa naïveté s'étiole. Au cours de l'exercice politique, sa naïveté scientifique, solide au départ, et puis s'étiole progressivement, et on s'aperçoit, tiens. Il y a autant d'argent venu de la coopération pour telle résolution, mais ça n'a jamais été fait. Par contre, on le retrouve au Bahamas. Telle structure qui est censée être structure d'État, mais en fait, c'est une structure d'une personne. Et on a vécu ça même avec ceux qui ont suivi, les hommes d'État qui ont suivi, que ce soit Premier ministre ou les présidents. Donc, cette naïveté tombe. Il se réveille. Les hommes politiques, si chefs soient-ils, si tendres avec vous au début, n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas découvrir que tu commences comme disent les autres, à fourrer ton nez dans là où il fallait pas. Et ça lui coûtera ce que ça lui a coûté.
Mais le titre quand même, professeur, est trop fort. Mobutu ou l'incarnation du mal zaïrois. Faire d'une personne l'incarnation du mal. Allez-y comprendre quelque chose.
Je comprends facilement et je suppose que les enfants feront un effort pour qu'un tel ouvrage se réédite. Mais là, qui se sont réveillés. C'est quoi? À un moment donné, il n'y a pas eu que Mobutu, il y a beaucoup, ceux qui ont suivi, ils sont terminés comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rend compte que le mal, c'est cette fermeture sur un homme, la fermeture de la République sur un seul homme. Et les clés pour ouvrir cette République, c'est seulement cet homme qui les a. Donc, quand vous faites des choses si rationnelles, soient-elles, mais qui ne cadrent pas avec sa démarche, ça s'arrête. Mobutu a été extraordinaire. Dans ses premiers moments, je ne sais pas si vous avez vécu ça, moi il m'en souvient comme si c'était hier, c'était l'homme seul, c'était Yamukolo.
L'homme providentiel.
Oui, mais les peuples, quand il passait, les peuples lui-même lui disaient l'homme seul, Yamukolo, l'Ekibango, etc. Mais par moments on dit que non, ça c'est la naïveté de la population. Non, la population n'a jamais été naïve. Quand elle veut, elle l'exprime sincèrement. Parce que la même population, lorsqu'elle arrivera à un niveau de comprendre que ça n'était fini avec Mobutu, son avenir ne pouvait plus être garanti par Mobutu, mais ils lui ont tourné le dos. Moi, j'ai assisté lorsqu'on le huait sur le boulevard de 30 juin, en face de l'ONATRA, là-bas, vous voyez, parce qu'il s'était refusé maintenant à Guadeloupe. Donc, c'est le même peuple qui a dit à Mukolo le Kibango, mais lorsque ce peuple a estimé que ça suffit, ils ont commencé à le huer, ils ont jeté des pierres sur des jeeps de commando, vous voyez. Donc, j'ai dit souvent aux gens, même aux étudiants, j'ai dit, il faut faire attention avec le peuple. Le peuple n'est jamais idiot. On peut lui faire avaler des trucs comme on veut, mais les jours où il décide que ça sera plus comme ça, vous vous étonnez.
Malgré tout ce que nous venons de dire, professeur Witmulongo, 5 ans après l'exil doré en Belgique, Jean de Dieu Ngouz à Carlibon décide de rentrer au Zaïre, où Mobutu lui accorde son pardon, il l'invite à rentrer au pays. Il le nomme ambassadeur à Washington en 1986 et est rappelé au pays en 1988 pour être nommé ministre des Affaires étrangères. Après l'ouverture au multipartisme en avril 90 et le début de la transition démocratique, au cours de cette cette même période, Ngouz fonde son propre parti, l'Union des fédéralistes et républicains indépendants, UFERI. Très vite dans ce contexte, il entre en rivalité avec Étienne Tshisekedi, l'autre grosse pointure de l'opposition à Mobutu, à qui il succède à la tête du gouvernement, après l'éphémère gouvernement de Bernardin Mungul Diaka, qui durera du 23 octobre au 25 novembre 91. Professeur, on arrive à Ngouz. Mobutu, c'est l'incarnation du mal zaïrois, mais qui quand même revient encore.
Oui, c'est très important.
C'est paradoxal.
Peut-être, mais je vais arriver. Mais j'aimerais avant ça que vous m'accordiez la possibilité de corriger certaines choses dans ce qui devient une biographie de Ngouz Karlibonde sur le plan politique. Premièrement, Ngouz n'a jamais créé l'UFERI. Il a créé le PRI, le Parti des Républicains Indépendants. Au Katanga, les Katangais qui avaient envie d'en découdre avec Kinshasa, c'est comme ça que je... On peut dire, ça s'est passé.
Ça se présentait à l'époque.
À l'époque. Même la période post-coloniale, il y a eu la Bako, les Sessi, etc. La Balubakate, ainsi de suite. En fait, les Katanga en avaient marre de Kinshasa. C'est toujours Kinshasa. Toujours Kinshasa, ils les écrasent, etc. Alors, il fallait créer leur parti politique qui partirait de là. Ils ont créé l'Union nationale des fédéralistes chrétiens. Et le fédéraliste, l'Union nationale des fédéralistes chrétiens, qui va s'appeler FENADEC. FENADEC avait des amis des Kin, des Lumumbashi. Vous aviez Dr Muteta et tant d'autres, Benga Sandongo, etc., Freddy Moulongo. Mais ils vont décider qu'ils ne restaient pas, comment je peux dire ça, absents de Kinshasa, la capitale. Et quelqu'un régnait à Kinshasa pour le compte de la nation, c'est Ngouz Karlibonde, qui était katangais aussi. Alors c'est l'association de FENADEC et de l'UFERI, et
de
PRI qui donnera UFERI. De deux, Ngouz n'est pas entré en conflit avec Tshisekedi. Là aussi, il faut qu'on commence à corriger l'histoire. Tshisekedi n'était pas le responsable de l'opposition. Ngouz va entrer en opposition, en querelle, avec l'Union Sacrée. L'Union Sacrée, c'était l'UDPS, différents autres partis comme PDC et tant d'autres, et qui sera rejointe par la société civile. Lorsque la société civile décide de s'associer à l'action politique et combattre Mobutu, ça donnera l'Union Sacrée de l'opposition radicale et ses alliés. Donc, on force l'histoire à ramener l'opposition d'antan seulement à Étienne. Non, Étienne a été, entre guillemets, c'est pas méchant ce que je dis, le produit de ses amis du combat. Comme lui était combatif et il sentait qu'il aimait bien diriger, il faut se réunir en Ganda avant d'entrer à la conférence nationale souveraine, parce qu'il ne voulait pas y aller, il disait, se biaiser par Mobutu et tout ça.
Au centre Nganda, ici à Kinshasa.
Exact, au centre Nganda. Là, il y avait notre pression de la société civile. Vous devez venir. Je vous informe que, à l'ouverture de la conférence nationale souveraine, l'Union Sacrée n'est pas là. Parce qu'elle était convaincue que c'est une aventure de Mobutu qui va noyauter, etc. Et nous, la société civile du Congo, vous pouvez poser la question au professeur Bat, il vous dira, il était la société civile de Kinshasa.
Et en ce moment-là, vous êtes coordonnateur de la société civile du Katanga.
Du Katanga. C'était encore le Chaba.
Le Chaba, oui, à l'époque.
Donc, on va faire pression sur l'Union Sacrée. Nous étions forts, la société civile, notamment la société civile de Kivu en général, avec Pierre Lumbi. Mais nous avions conscience de nos limites par rapport à la machine impère. On s'est dit, si on continue sans l'Union Sacrée, l'impère finira par nous écraser. Alors nous allons faire pression sur eux. Ils disent, venez. Ils nous disent, est-ce que vous êtes persuadés que cette histoire... Ils disent, déjà, la première séance, nous avions montré que nous pouvions neutraliser les mouvanciers, comme on les appelait à l'époque. Mais si on fait 2-3 semaines sans vous, eh ben, ces gens-là peuvent nous écraser. C'est comme ça qu'ils décideront de venir. Mais pour ça, ils arrêtent de stratégie. Le professeur Liaou, le penseur du groupe, qu'on oublie souvent.
Professeur Marcel Liaou.
Liaou, le père de notre ministre.
Jean-Pierre Liaou.
Jean-Pierre Liaou, que je m'autorise de saluer, parce que c'est quand même une partie de mon histoire aussi, son père. Et lui, il va dire, nous ne pouvons pas aller là. On sent que le peuple veut notre pouvoir. Il veut nous donner le pouvoir. Mais nous ne pouvons pas y aller comme ça. Vous voyez les gens qui ont de la jugeote dans la tête. Marcel va dire, nous ne pouvons pas y aller comme ça avec les muscles. Qu'est-ce que nous faisons si on nous donne le pouvoir? Alors, je me résume simplement, et ils vont proposer, et ça c'est Birindwa qui propose, ça aussi c'est une histoire, plus tard on comprendra pourquoi à la fin, ça sera des départs, Birindwa part, tel part, tel part. Parce que les dissensions viennent du non-respect des ententes qu'ils avaient prises entre eux. Birindwa va dire, je vous propose que si on a le pouvoir, la primature, on la donne, tu sais qu'il dit. Parce qu'après les retournées de l'Europe, ses amis avaient senti que lui, il avait envie vraiment d'en deux côtes. Il avait envie d'être premier. Et on donne la primature à Étienne. Et si le Parlement est bicaméral, nous allons donner une des chambres au professeur Liao. Il va dire, alors, je vous propose qu'à ce moment-là, si nous allons aux élections présidentielles, le président Kibasa Maliba, car c'est lui qui a toujours été président de toutes les aventures du DPS, il va dire, comme ça, le président Kibasa va être notre candidat au présidentiel. Kibasa va dire, oui, c'est très bien tout ça. Mais vous, alors, les autres, Liao va dire, mais alors, Birindwa, si Tshisekedi passe premier ministre, tout celui qui passe à une partie du pouvoir va prendre Birindwa. C'est ce qui fera que quand Birindwa... C'est une grande histoire.
Voilà, c'est une grande histoire qu'on racontera un autre jour, professeur Witt Mulongo.
Le grand témoin.
Mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, sachez que dans Grand Témoin aujourd'hui, je reçois le professeur émérite Witt Mulongo, homme des lettres et politicien. Il s'exprime sur la commémoration du 20e anniversaire de la disparition de l'ancien premier ministre Jean de Dieu Ngunza Karlibonde, diplomate et homme politique qui a aussi marqué l'histoire de la République démocratique du Congo. Jean de Dieu Ngunza Karlibonde est décédé le 27 juillet 2003 à Kinshasa. On parlait tout à l'heure de Jean Ngunza après avoir écrit son célèbre livre Mobutu, l'incarnation du mal zaïrois, qui revient quand même, devient premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce que vous répondez à certains observateurs qui disent que Ngunza, c'était l'image d'un politicien versatile?
Effectivement, cette image lui a beaucoup collé à la peau. Je dois vous dire, même moi, à un moment donné, vous savez, dans ma jeunesse, c'est Karl qui était mon modèle quand j'étais étudiant. Et je vais me dissocier de Karl à partir de ça. À partir de tout ça, je commençais à me dire, c'est pas possible. Comment il peut tout le temps
changer de position?
Mais c'est plus tard, lorsqu'il est premier ministre, hein, et qu'on le pourfend, etc., ça va même déranger son petit, que je comprendrai sa logique. Enfin, que je comprendrai, je ne dis pas que j'admettais sa logique, mais je comprendrai sa logique. Parce qu'il l'a dit. Il a dit à certains d'entre nous, il a dit non. Vous voyez ce qu'on a fait pour faire tomber Mobutu, il ne tombe pas. Ces messieurs, il faut le combattre de l'intérieur. Ça, c'était la logique du dernier Ngunza, au moins. C'est des choses dont je peux parler avec assurance. Il dit non, moi j'ai choisi de le combattre à l'intérieur. En fait, il y avait comme un souci de retour au premier Ngunza. Hein, admiré par Mobutu, etc., etc. Il avait envie de refaire le même chemin, mais cette fois avec une orientation féline. Mais c'est dire, il prend l'ampleur et ensuite il peut s'imposer pour le relais. Bon, est-ce que ça lui a beaucoup apporté? Je crois pas.
Nous allons écouter ce que Jean de Dieu Ngunza Karlibonde disait de lui-même, de l'idéologie de l'UFERI.
Pour ce qui concerne votre parti, M. Ngunza Karlibonde, c'est quand même plutôt vers les libéraux que vous vous tournez quand vous êtes à l'étranger.
Écoutez, M. Bastien, je suis, encore une fois, je vous dirais, contre les schémas établis.
Il est clair que vous êtes plutôt à droite, je dirais.
Oui, je voudrais vous dire une chose. Nous sommes des partis politiques ancrés dans notre pays et nous devons avoir des considérations qui tiennent compte des réalités de notre pays. Nous sommes un parti fédéraliste, cela concerne les réalités de notre pays. Nous nous appelons libres républicains indépendants parce que nous avons sur le plan économique et social un idéal libéral. Cela ne veut pas dire que quand nous venons en Europe, nous ne nous adressons qu'à ceux qui ont l'idéal libéral. Bien sûr, le contact avec ceux-là est plus facile puisque nous avons le même idéal. Mais nous ne vivons pas dans un domaine sectaire, nous ne sommes pas sectaires. Nous rencontrons aussi d'autres dirigeants politiques qui peuvent avoir une influence quelconque dans les décisions du gouvernement ou de l'opinion publique de leur pays. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui est recherché? Non seulement c'est le message du soutien à la démocratie au Zaïre pour la rendre irréversible, mais aussi la question que vous avez posée. Qu'est-ce que le peuple attend? Ce redressement économico-social, dans une économie qui est sinistrée actuellement, nous n'avons pas d'autre choix que de demander la collaboration, la coopération, des institutions financières internationales et des pays qui généralement sont partenaires économiques du Zaïre ou d'autres qui veulent bien se joindre aussi pour essayer ce pays à sortir de ce sinistre économique que constitue le fiasco économique actuel. Et dans ce cadre-là, les contacts avec tout le monde sont nécessaires pour faire comprendre que nous cherchons à établir un gouvernement qui gouverne et un gouvernement crédible, c'est-à-dire qui est accepté par le peuple, et qui respecte sa signature à l'extérieur, de manière à ce que, dans cette période de sinistre, nous puissions avoir l'aide de tout le monde.
Bien, plaçons-nous dans la perspective.
Voilà, l'UFERI fédéraliste, professeur, qu'est-ce que vous répondez à d'autres analystes qui ont toujours lié les Katangais, le Katanga, à ce fédéralisme, ces sécessionnistes, qu'est-ce que vous leur répondez?
Je réponds comme mon grand frère Feu Honorius Kissimbangoy, parlant de sa lecture qu'il avait faite pour la lecture de l'ordonnance qui arrêtait Tshisekedi, enfin arrêtait dans le sens de les démettre comme Premier ministre, chaque fois que ça revenait, il me disait toujours, professeur, cette histoire me collera toujours à la peau. Vous savez, les gens ont toujours une lecture parcellaire. Quand on parle de Katangé, sécessionniste et tout ça, pourquoi on tue volontairement ces deux gensons et ceux qui l'avaient suivi, notamment Kabila? Des nationalistes. Des nationalistes qui se sont associés. C'est grâce d'ailleurs à eux que les Katangé restaient unis. Et cela est passé pour certains Katangé comme de la trahison. On va dire c'est à cause de vous qu'on n'a jamais eu l'indépendance du Congo, parce que Sendou est resté nationaliste. C'est lié aux gens comme des Kalonji et tout ça, et a relié le Katanga à la nation congolaise. Pourquoi on n'en parle pas? On ne parle que des sécessionnistes, de fédéralistes, qui ont droit d'être fédéralistes. Comme les nationalistes qui existent au Katanga ont droit aussi d'être nationalistes. Je crois qu'il faut peut-être qu'on change un peu les paramètres, que les gens, d'abord qu'ils arrêtent à s'effrayer comme ça, et puis de trouver normal que quelqu'un dise, nous on veut le fédéralisme. Les décisions de la conférence nationale souveraine étaient données pour exécutoires et imposables à tous. C'est une loi de la République. Mais cette conférence a laissé une constitution fédérale au Congo, qui s'appelait République fédérale du Congo. Mais que ceux qui sont venus, notamment c'est Kabila qui a craché dans la soupe, quand ils sont venus, ils n'ont pas voulu suivre ce que la conférence avait décidé, parce que dans ce pays, le principe de la continuité de l'État n'existe pas. Tout celui qui arrive, il dit, regardez-moi très bien, je vais inventer le soleil.
Professeur Witt Mulongo, nous arrivons à la période de la conférence nationale souveraine. Quel rôle Jean de Dieu Ngunza Karlibond a-t-il joué pendant cette période?
Un grand rôle, parce que d'abord, il faut savoir, et ici à Kinshasa, je parle un peu comme Katangé, hein? Ici à Kinshasa, on n'en parle pas beaucoup. C'est le premier président de l'Union sacrée. On n'en parle pas. On invente d'autres choses, mais on ne dit pas qui a présidé l'Union sacrée, parce que c'est ce personnage-là qui était le personnage numéro un de l'opposition ici. C'est comme ça que tous ses collègues vont lui confier la présidence de l'Union sacrée. Il va conduire des combats farouches dans les différentes communes ici, jusque, je ne sais pas si vous retrouverez les images de la voie du Zaïre, où on se brûle l'argent. Et c'est à ce moment-là que Mobutu va en vouloir énormément à lui. Donc il va jouer un grand rôle de la conduite de l'Union sacrée, qui va mener un combat qui poussera Mobutu progressivement à accepter qu'il y ait une conférence nationale souveraine. Sinon, ça n'allait pas être possible. Nous étions dans les provinces, les autres, c'était des petits oisillons. Mais c'est l'Union sacrée qui sera une grande machine, avec, bien entendu, à la tête, comme parti meneur, l'UDPS et l'UFERI.
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure les dissensions autour de l'Union sacrée. Le 25 novembre 1991, Ngunz est nommé Premier ministre. Quelques temps après, défenestré, il va rejoindre le camp Mobutu. Il revient aux affaires dans le gouvernement Birindo, à la vice-primature et ministère de Défense. Mais c'est toujours un Ngunz versatile. Ngunz, 20 ans après, qu'est-ce qu'on peut retenir d'un tel homme politique?
D'abord, je vous ai dit au départ que de Ngunz, il faut retenir une intelligence authentique. C'est un don que beaucoup de politiciens n'ont pas. De deux, je vous ai dit que versatile, oui, on l'a dit, nous tous, on l'a dit. Il faut ce qu'on retienne à la fin, que dans la logique de Ngunz, la machine de Mobutu était tellement énorme qu'on mettrait beaucoup d'années à vouloir la combattre de l'extérieur. Pour lui, il fallait aller à l'intérieur. Comme dit les Louba de deux côtés, Kishikija Lukunde, Kijimundamwa Lukunde.
Donc, l'insecte qui détruit le haricot se trouve à l'intérieur.
C'est de l'intérieur qui détruit. Donc, c'était sa logique. De trois, ça aussi, c'est une dimension que je relève depuis que je suis devant les médias ici, qu'on fait exprès de négliger. Je crois qu'on fait vraiment exprès. Il y a eu un grand malaise à l'Union sacrée. Un grand malaise lié à la tribalité. Mais ça commence là. Donc Ngunz décide de partir dans une sorte de Yanamar.
Congo, Congo nde mboka mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli leopard. Mikolo to sekara kina mosolo yamboka Congo ekoki to fungwani misolelo to moni bozo banyo soto sali boya kobongi sa Congo aveni ebongi to sala ebongi to sala moto nyo sota mwana Congo ya mosolo mpembe ya nzoku Congo ya bwanya kasa ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo to sekala kina mosolo ya mboka Congo ekoki to fungwani misolelo Tomoni bozo banyo soto sali Boya kobongi sa Congo aveni Ebongi to sala, tebongi to sala Moto nyo sota mwana Congo ya mosolo, mpembe ya nzoku Congo ya bwanya, kasa ya mbila Congo ya makasi, moto ya nkoi Congo, Congo ne mboka Congo, mboka ya bankoko Congo, mboka mwana pamba Lobi, mboko lula yango Congo, Congo ya Afrika Congo Mboka ya kitoko Congo ya batu mayele Congo mbako bikisa yo
Aujourd'hui, je reçois le professeur émérite Witt Mulongo, homme des lettres et politicien. Il s'exprime sur la commémoration du 20e anniversaire de la disparition de l'ancien premier ministre Jean de Dieu Ngunza Karlibonde, diplomate et homme politique qui a aussi marqué l'histoire de la République démocratique du Congo. Jean de Dieu Ngunza Karlibonde est décédé le 27 juillet 2003 à Kinshasa. Alors professeur, notre émission est en train de tendre vers sa fin. On va rappeler un souvenir triste de l'histoire de la RD. RDC. En 92, les Kassaïens sont chassés en masse du Katanga, entraînant plusieurs pertes en vies humaines. Le nom du parti Uferi est cité par plusieurs personnes comme ayant été parmi les commanditaires de ce triste souvenir, avec à sa tête Ngozi Nkarlibond et Gabriel Kyungwa Kumwanza. Quelle est votre perception de cette période sombre de l'histoire de la RDC?
Elle est réellement sombre. C'est les scientifiques qui vous parlent. Et un politique qui a connu cette période parce qu'il a été tout jeune professeur jusqu'à l'Ikassi. Ça, je l'ai dit souvent à mes frères katangais qui souvent m'en veulent parce que je dis ça. Mais je suis moi, malheureusement, c'est comme ça. Vous voyez, je viens de parler de la tribalité qu'avaient construite mes frères du Kassai. Mais le katangais, ce qui s'était passé là, j'ai jamais discuté sur le fond. Il y a eu un fond qui a créé le malaise et le Katangais, les Kassaïens ne s'entendaient pas. Mais la forme, elle était abominable. Alors, c'est pour ça que je dis aussi...
Et vous vous êtes d'ailleurs dressé beaucoup contre ça à l'époque.
Malheureusement, beaucoup de vos collègues ne mettent jamais l'accent là-dessus. On dit les Katangais, on fait ci, on fait ça aux Kassaïens. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas tous les Katangais. Et Monseigneur nous a tendu un micro ici, le podium de la Conférence nationale souveraine, parce qu'il s'était dressé un autre groupe anti-Ifiri. Et nous étions pilotés par le prof Londabouloulou, Honorius Kishimbangoy, et tant d'autres, et nous étions Kibasa Maliba. Et nous étions des jeunes turcs qui n'étions pas d'accord. Monseigneur nous a donné un micro, nous avons passé un message. Il y avait fait Kilubamwika, que vous aviez connu sûrement aussi, l'honorable Kilubamwika. Et ce message est passé à travers le pays pour condamner ça. Mais vous n'entendrez pas mes autres frères relever ça. Non, c'est les Katangais nous ont fait ci, les Katangais nous ont fait ça. Moi, comme je montais quand même à ce temps-là, mes aînés m'ont envoyé à la tête d'une délégation avec d'autres aînés, mais c'est moi qui conduisais la délégation, jusqu'à l'Ikassi, contre le vœu d'accord de Kyungu, qui nous en voulait à mort. Ce que j'avais vu, pour répondre concrètement, enfin, terminer par là, ce que j'avais vu à l'Ikassi était inacceptable, parce que inhumain. La pelouse du collège ou Athénée, je sais pas comment on appelait ça, de familles entières, papa, maman, enfants... On cuisinait ici, les enfants déposaient leur caca à gauche et tout. Non? Vous voulez mon résumé? Je voulais donner. C'est inhumain ce qui s'était passé. Mais il faut toujours être correct. Ne pas faire dire à l'histoire ce qu'elle n'a pas dit. C'est Luferi. C'était pas tous les Katangais. C'était Luferi. Et Luferi, ici, je dirais, nous avions parlé de la naïveté d'intellectuel. Ngozi n'avait pas d'assises solides au Katanga, mais assises solides sur le plan national. Et les Katanga avaient été confiés à Kyungu Akumanza. Et donc, le maître d'ouvrage, c'était Kyungu Akumanza, à ce moment-là. Mais Ngozi avait besoin de Kyungu, s'il devait régner. Et beaucoup vous diront, d'ailleurs, que de petites querelles, même sur les podiums, quand... Kyungu, lui, en tant que président, devait s'adresser à la foule énorme. Kyungu lui disait, Ubachambule. Il y a des gens qui ont noté cette histoire-là, c'est resté. Ngozi disait, non, pas
d'un. Donc, lui, il appelait Ngozi à insulter les gens, et Ngozi ne voulait pas, oui, sur le podium.
Ngozi disait, non, moi, je ne peux pas aller jusque-là. C'est pour vous montrer déjà le personnage de Ngozi. C'était l'éternel intello devenu politicien. Même s'il était lié à des dialectiques politiques, à des praxis plutôt politiques, ce moment-là, mais il faisait toujours un effort de rester au-dessus de ça.
Alors, pour terminer, professeur, des erreurs de Jean Ngozi Nkarlibond, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon aujourd'hui, 20 ans après?
C'est que on se complaît aujourd'hui de finir comme naïveté. Je crois que faut pas rêver que quand quelqu'un est dur, c'est en allant, en entrant dans son système, qu'on réussira. Moi, j'avais compris que c'était ça, sa position dernière, qui avait justifié ses départs, mais je n'ai pas trouvé que c'était rationnel. Je crois que la naïveté, nous devons l'éviter. J'ajoute, pour ce qui est de nous, les Katangais, c'est l'amour de son Katanga. Mais n'est pas opposé l'amour du Katanga et l'amour de la nation congolaise. C'est imbriqué.
Voilà. Nous allons suivre un extrait d'un des fils Ngouz et du président de la Fondation Katangaise à l'occasion de la messe d'Action des Grâces qui a été organisée avec le soutien du questeur de la CENI, M. Agé Ajmatembo. C'était le samedi 29 juillet dernier à Kinshasa.
Jean Ngouz Akaribone est d'abord un très grand homme d'État dans ce pays. Il a marqué ce pays, il a été un grand diplomate, il a été appelé à résoudre beaucoup de conflits, de problèmes de manière internationale. Il a été parmi aussi les pionniers de la démocratie, il ne faut pas oublier, dans ce pays. Parce qu'il a créé d'abord son parti PRI, et après il est parti s'associer avec la FENADEC et pour créer l'UFERI, qui, vous le savez, a fortement bousculé la dictature de Mobutu à l'époque.
Le temps efface l'homme, mais ses œuvres rappellent son existence. Ce Katangé qui nous avait appris qu'à chaque fois que nous affrontons nos peurs, nous gagnons de la force, du courage et de l'assurance. Quoi qu'il était politicien, il s'est attelé à valoriser les principes de la fraternité katangaise. Justement, il s'est sérieusement investi pour donner de la valeur aux dignitaires du Katanga.
Professeur, dans le cadre de cette commémoration des 20 ans du décès de Jean Ngouz Akaribone, qu'est-ce qui est prévu comme activité?
Il y avait des prévus, bien entendu, ces plateaux qu'on a eu à faire, et ensuite la messe. J'ai cru entendre, je ne fais pas partie des organisateurs, j'ai été appelé un peu comme grand témoin, nous y voilà. Ce que j'ai cru comprendre des organisateurs, c'est que après il y aura une tournée inter-katangaise dans différents chefs-lieux qui ont connu et porté Ngouz Akaribone, et ça se conclura par le dépôt d'une grande gerbe de fleurs là où repose Karl.
Professeur Witmulongo, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Ça aurait été un plaisir aussi d'être devant les micros d'Okapi.
Merci.
Acha tukukumbuke. Jean Bosco Mwenda Wabayeke. Kwetu kulikasi.
Bibi Teresa, Bibi Teresa. Magano kudia gana we mama, kende kwenu kumugini we mama. Na picha yako, nikitazama, nakumbuka vitu mingi we mama. Picha nayo aiseme we mama. Bibi Teresa. Bibi Teresa, magano kudia gana we mama, kende kwenu kumugini we mama. Na picha yako, nikitazama, nakumbuka vitu mingi we mama. Picha nayo aiseme we mama. Nani muvala mabaya, nani muvala zebula. Nani muvala mabaya, nani muvala zebula. Ilunga we, kazonga we, ilunga we, kazonga we, ilunga we, kazonga we, ilunga we. Sheri mupenzi, mama shananita. Fika Kolwezi mpenzi wangu, utapata barua. Shiri mwanamu, usilie mingi. Kufika Kolwezi mpenzi wangu, utapata barua.
Oh, kwetu kubunkia. Waza Kabukari.
Naenda pale kwetu njia ya likasi, naenda pale kwetu njia ya bulua. Si wende umwambie baba Bosco Abayeke, wende umwambie. ye ende akalale kwabo. Na yule bibi wa sipo na bwana tumba, ni kama kinga ya sipo na lampi tumba. Siwende umwambie baba busku wa bayeke, wende umwambie ende akalale kwabo.
Shidoshi chinois solo bete langa lindandako kana musique yoka.
Témoin, c'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je rappelle que je recevais le professeur émérite Witte Mulongo, avec qui nous avons parcouru un pan de l'histoire de la RDC pour parler de l'ancien premier ministre et diplomate Jean de Dieu Ngunza Karlibonde, dont la famille et la fondation katangaise commémorent les 20 ans de la disparition à partir de ce mois de juillet. Vous pouvez réécouter, voire télécharger cette émission et beaucoup d'autres numéros de grands témoins en allant sur www.radiokapi.net. Bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix. Au revoir.